il s'apprêtait à flotter ou presque. C'était une de ces journées opaques et je m'en souviens parce qu'à l'époque, je venais, comment dire, de littéralement me faire éjecter de cours. Et j'avais, comme qui dirait, un besoin urgent de mettre certaines de mes idées noires au clair. Notamment après une austère, voire sordide leçon d'histoire. Tenez, d'ailleurs écoutez ça, c'est à cet ordre. En fait, le patré fut prof, remplaçant ceci dit en passant, pensait sans doute nous distraire en abordant le, je cite, fameux mythe du bon colonisateur. Mais perso, ce qui profondément m'irrite, c'est lorsqu'un pseudo-enseignant entre autres m'explique que si aujourd'hui l'Afrique est percluse d'affres voire de saignements, c'est parce que dans le fond, la France n'est pas allée au bout de son enseignement. Ces paroles avaient été prononcées avec une telle ferveur que la seule phrase que j'avais envie de rétorquer avant de prendre la porte, c'était « Va te faire voir ». Et c'est dingue, ce qui me sidère, c'est que personne n'est encore, pour ainsi dire, osé parler des déboires de la colonisation. Parce que ce que je pense dans le fond, c'est que c'est comme lorsqu'il s'agit de boire de l'alcool. Après, ce qu'on préfère, c'est nier les actions. Et si je vous parle de cet incident, de façon si insistante, c'est que j'avais réellement le sentiment ceci de m'être fait incendier. Et c'est peu dire, car peu de temps après avoir quitté le cours, alors que je marchais sur l'avenue, légèrement vanné, à contresens des pantins, je sentis une pluie battante s'abattre. Je n'avais qu'une hâte en voyant la sale teinte du temps, c'était faire une halte quelques instants dans le café d'en face, pour reprendre des forces. En entrant dans ce bar, j'entendais un homme probablement déjà plein de bière accoudé au comptoir, conter aux quelques personnes présentes une de ces pesantes histoires de retour en charter. Alors sans trop réfléchir, je sortis une de ces vieilles feuilles rêches qui traînait sans doute depuis la veille dans le fond de ma poche. Pour au départ, y déposer avec tact de trois syntaxes qui peu à peu donnèrent naissance à ce texte-ci. À tous ceux qui ressassent sans cesse tout un tas de récits miteux tels que le fumeux mythe des races, je préconise de relever un défi assez féroce, à savoir celui de la différence. Car mon souhait à ce jour n'est pas tant de servir d'étendard, simplement si je passe autant d'heures à écrire, à y croire, c'est surtout pour entendre dire, non sans saveur, que tout être humain sur cette terre peut être détenteur d'un certain savoir. Car inutile de se leurrer, c'est unanime, rien n'a plus de valeur que le respect de la personne humaine. Et c'est ainsi que j'abandonnais cette feuille criblée d'encre sur le rebord du comptoir pour me décider, une fois apaisé, à ressortir du bar. La pluie avait en effet fini par cesser de baver sur les trottoirs.
Canal Sud 92.2, bonjour. C'est bien contre histoire. Comme l'humour est à mon avis la seule arme de lutte massive contre l'imbécilité, la lâcheté, la mauvaise foi, l'abus de pouvoir, l'escroquerie et autres manifestations de la cupidité des dirigeants qui ne nous représentent plus.
Donc, pour faire provision d'humour salvateur en ce début 2024, nous retournons aux glorieuses bandes dessinées de Jarry et d'Otto T. Je me vous souhaite une bonne écoute et j'espère vous amuser un peu.
Alors, pour aujourd'hui, nous allons commencer le tome 5, consacré aux immigrés. Voilà comment nos deux lascars, Grégory et Otto, présentent leur cinquième album. Chaque année, au début du printemps, on voit arriver dans le ciel de France de nombreux immigrés qui ont fait de longues distances pour venir se reproduire chez nous. Ils ont pris leur envol en vastes groupes, et puis, poussés par la misère et par le manque de nourriture, ils viennent se poser sur les fils électriques de la banlieue parisienne ou dans les quartiers chauds de Marseille. Là, ils construisent leur nid dans des tours en béton réservées à cet usage. Puis, pour nourrir leurs petits, ils font plein de sales boulots dans le bâtiment, la restauration ou le retraitement des déchets. Ce phénomène d'immigration n'est pas nouveau. Jadis, les Belges, les Italiens, les Polonais, les Espagnols. Aujourd'hui, les Maghrébins et les Africains de nos anciennes colonies. connaître leur histoire, apprend à se connaître soi-même. Car en vérité, je vous le dis, l'homme civilisé descend de l'immigré. Ça va? Vous voyez le décor? Pour compléter le tableau, je vous décris rapidement les premières pages, impressionnantes sur le plan graphique, Autoté ayant sûrement fait Archie dans une autre vie. 6 pleines pages avec vue plongeante sur ces hauts lieux de la civilisation et du bien-être que furent les usines du XIXe et XXe siècle. Construction en carré, comme les fermes d'autrefois. Sauf que là, les appartements des propriétaires ne sont pas intégrés au lieu de travail.
Cette promiscuité, vous n'y pensez pas, cher ami?
Non. Au milieu du carré des bureaux, judicieusement éclairés par des fenêtres standardisées, dupliquées à l'infini, comme pour annoncer celles des futurs HLM qui ne tarderont pas à pousser à proximité. Au milieu de cette ceinture de locaux administratifs, donc, sont implantés les ateliers, reconnaissables facilement en vue d'avion par la verrière dentelée des toitures, éclairant économiquement les chaînes de montage. L'énergie solaire, ça date pas d'hier.
C'est joyeux à se taper sur le ventre. On dirait un temple du stakhanovisme.
Si mon descriptif n'est pas assez précis, allez voir ou revoir la manufacture des tabacs. C'est assez ressemblant. Et pour la toiture, celle des ateliers du lycée Gallieni finiront de vous mettre dans l'ambiance.
Alors pourquoi nous faire tant de peine comme ça, d'entrée de jeu, alors qu'il y a quasiment plus d'usines dans le pays?
Parce que nous sommes à contre-histoire, bien sûr. Faudrait suivre quand même, hein?
Mais là, dans un coin de la deuxième et de la troisième page, apparaît un personnage tout rond, doté d'une superbe barbe blanche, longue et bouclée, qui lui mange toute la figure, et coiffé d'un chapeau noir à large bord, qui rappelle diablement certains promeneurs du Champ de Mars. Autour de taille et à la barbe près, on s'y croirait.
Oh, mais le voilà qui prend la parole, et pas n'importe comment. Français de souche, français issu de l'immigration, française de souche et française issue de l'immigration, je vous salue. Moi, François Mitterrand, je suis ici ce soir pour vous parler de l'immigration. Ne cédez pas à la panique, l'immigration est un sujet banal. Je pourrais aussi bien vous parler du taux de suicide dans les entreprises ou de la mortalité des femmes battues par leurs maris. Voilà, il s'est donc présenté. Le mystère est levé. Alors, le tour de taille, ça prouve qu'il ne faut pas craindre l'au-delà, on y est bien nourri, on dirait. Et l'opulente barbe, c'est logique pour un fantôme, puisque, une fois passé l'Achéron, on sait bien que le système pileux s'en donne à cœur joie, même que c'est un des mystères de la nature. Ce que l'on apprend, c'est que les fantômes se trouvent visiblement convertis à l'écologie, sans doute pour expier une vie consumériste irresponsable et destructrice. Car notre ex-tonton va sillonner les pages suivantes sur un vélo aussi poétique que rudimentaire. Et vous pouvez pas imaginer ce qu'il fait, le tonton, sur son vélo. Des kilomètres et des kilomètres, à toute blinde. Même qu'il y a un lapin qui a failli y laisser sa peau de lapin. Et un corbeau qui s'est enfui en hurlant.
Ça manque d'alcotest, cette BD, moi je vous le dis. Encore un privilège de nanti.
Alors, mine de rien, suivons donc le tonton sur son vélo.
on associe l'immigration et l'histoire coloniale. Mais il faut bien faire la distinction. La colonisation, c'est nous qui y allons. L'immigration, c'est eux qui viennent. En France, au XIXe, les immigrés sont venus seconder les ouvriers, trop peu nombreux pour tout le boulot qu'il y avait à faire. Par rapport aux Français, les immigrés étaient plus flexibles, pas trop regardant sur la fiche de paye ni sur les conditions de travail. Par rapport aux immigrés, les indigènes de nos colonies étaient encore plus flexibles. Ils travaillaient pour le simple plaisir de rendre service. Ouvriers français, ouvriers immigrés, indigènes colonisés, on a fait durer. Mais à la fin des années 50, on a dû décoloniser. Comme on s'y attendait, la décolonisation mit un frein aux Trente Glorieuses. On dut rapatrier nos entreprises et il fallut ruser pour continuer à dominer l'Afrique. Et là, au beau milieu des années 70, on s'est retrouvé avec deux chocs pétroliers sur les bras. Comment faire de la croissance et rémunérer nos actionnaires tout en maintenant les emplois en France, terre de lutte sociale, et c'est tant mieux. Mais les acquis sociaux, ça coûte bonbon. Et il faut bien répercuter les coûts sur le prix des marchandises. L'équation se révéla impossible à résoudre et nos capitaines d'industrie firent le choix de sauver la croissance et les actionnaires. Ils inventèrent la délocalisation et nos entreprises quittèrent la France pour aller s'installer directement chez les immigrés. La délocalisation a l'avantage de la colonisation sans les inconvénients de l'immigration. Malheureusement, un certain nombre d'entreprises furent obligées de rester sur le territoire national, par exemple le bâtiment, la restauration, ou le nucléaire. Ça n'aurait pas de sens de construire nos quartiers d'affaires à l'étranger, de prendre l'avion pour aller au resto en Chine, ou de construire nos centrales nucléaires en Iran. Ces entreprises-là, pour ne pas couler, continuent de faire appel aux immigrés, qui viennent s'entasser en banlieue parisienne ou dans les quartiers chauds de Marseille. Les immigrés ont un gros avantage à venir chez nous. Ils sont payés au SMIC. Le SMIC, pour eux, c'est comme gagner au loto. En plus du SMIC, ils profitent de nos acquis sociaux sans jamais avoir participé aux luttes. Et c'est là que les ennuis commencent. Les vrais chômeurs français, ceux qu'on a mis dehors sans quoi nos entreprises ne seraient plus compétitives, voient d'un œil mauvais qu'en plus de faire le sale boulot à notre place, les immigrés parlent un français sans accent et finissent par s'intégrer.
Alors se pose l'éternelle question, qu'est-ce qu'on va devenir ?
Une petite pause technico-graphique indispensable pour bien identifier les héros qui vont suivre. Étudions donc un instant le personnage du pauvre gueux obligé de traverser champs et vallons pour s'en aller quérir une miche de pain pour ses petits de l'autre côté de la rivière, là où qui connaît personne. Alors, ce paysan typique français de souche, est dessiné par Autoté en forme de graines de haricots verticales. Le creux côté ventre, qu'il aura vide, bien entendu, et le dos rond à force de se courber sur la houe et devant le maître. Pattes de mouche, sauf qu'il n'en a que quatre, et cheveux et barbe longues. Ça coûte moins cher. Non pas en encre de Chine, mais chez le coiffeur. Et voilà le chapitre 1, la joie d'être français. Sous l'ancien régime, la France était essentiellement rurale, et les moyens de communication peu évolué. On se déplaçait en carrosse quand on avait des chevaux, en charrette quand on avait un bœuf, ou à pied quand on avait des pieds. On passait son temps dans de beaux châteaux fortifiés si on était noble, dans son taudis si on était le reste de la population. À 30 kilomètres à la ronde, on ne parlait pas le même patois, et d'une vallée à l'autre, on était partout des étrangers.
Un étrange étranger. Mais que croit-il cet étrange arrivant à bon port, débarquant soi-disant de la terre en faillite, n'ayant que les bras pour moyen de transport? Il aspire au grand rêve qu'ont construit nos aïeux, d'être heureux, d'exister, de pouvoir vivre vieux. Mais pourquoi cet étrange ne cherche-t-il pas autre terre pour y planter sa ville tente, celle de son père et sa mère? Après tout, sommes-nous tous responsables de son piètre destin? Pourquoi viendrait-il s'abreuver à nos vaches? Pourquoi viendrait-il quémander notre pain? Je ne suis point responsable de son piètre destin. Mais que croit-il, l'insolent? Qu'il suffirait d'être blanc?
Pour être français, il fallait savoir qui avait le roi à Paris, qu'il tenait son pouvoir de Dieu et qu'on pouvait être tiré au sort pour aller mourir à la guerre. On était français aussi parce qu'on habitait à l'intérieur de nos frontières. Ça s'appelait le droit du sol. Personne n'était bien au courant. On habitait là où on habitait. Nos enfants, pareil. C'était bien pratique pour nos descendants qui feraient de la généalogie. Ça irait plus vite. Quand on appartenait au peuple, on n'attendait pas grand-chose de l'État. Parfois, un croquant qui avait plus de chance qu'un autre. Il se trouvait que Sa Majesté était en déplacement à Loudun ou à Nègrepelisse et que Sa Majesté se promenait à cheval sur les terres fraîchement labourées du seigneur local. Et soudain, Sa Majesté croisait la femme du croquant, en train de semer le grain avec un joli petit mouvement de croupe. Le sang de Sa Majesté ne faisait qu'un tour. Sa Majesté l'invitait en sa chambre royale. Et le croquant recevait en échange un écu totalement exonéré d'impôts. Oui, enfin, la chambre royale en question, c'était en général un buisson. Et il faut reconnaître que Ototé déploie là un talent assez extraordinaire. C'est pas que la vignette soit vraiment rigolote, non, mais vraiment en deux coups de crayon, la scène est éloquente, on ne peut pas se tromper. Alors, le croquant se rendait au bistrot pour boire son écu, et gueuler contre cette pute de reine de France, même pas française en plus. Un coup c'était l'infante d'Espagne, un coup l'archiduchesse d'Autriche, on n'était plus chez soi, à la cour, ça jactait dans 23 langues, monsieur, 23.
Foutez-moi la paix, laissez-moi crever, Pierrette, mon amour.
D'un geste brusque, le croquant relevait la tête, sortait du bistrot. Dehors, il attrapait la fourche qui traînait contre le mur, et d'un pas décidé, il s'en allait sur Paris. Loudun, Paris, Nègrepelisse, Paris, ça faisait une trotte. Mais il allait lui dire le fond de sa pensée au roi de France. « Jaco, attends !» Il se retournait, le bistroquet et sa femme ramassaient une pigouille. « On vient avec toi !» À la sortie de Loudun ou de Nègrepelisse, ils croisaient les cantonniers. « On vient avec vous !» Ils mettaient leurs pioches sur l'épaule et ils leur emboîtaient le pas. Arrivés à Tours ou à Limoges, ils étaient des centaines avec leurs doléances. Ils en venaient de partout, ça gueulait, ça brandissait des outils. À Orléans, c'était des marées humaines, des Marseillais, des Nantais, des Girondins, des Montagnards, des Jacobins. Il en venait du nord, de l'est, de Bretagne, ça convergeait vers Paris, ça se croyait invincible. Alors qu'il y a quelques jours seulement, ça trimait chacun dans son coin pour manger des patates. Ça fit la Révolution, ça fonda la Première République, ça créa le sentiment national. Jamais on n'avait ressenti un truc aussi fort. Maintenant que nous, le tiers état, on avait fait entendre notre voix, jamais plus on ne se tairait. Déjà, on formait une nation qui nous rendait semblables, égaux en droit, libres et souverains. Il faudrait plus que des Napoléons, des Restaurations ou des Seconds Empires pour qu'on ne se sente plus français. Et ça, on était fiers de l'avoir gagné. Tandis que le bourgeois s'enrichissait, le noble ruminait sa vengeance. Là, on voit un noble, avec habit à queue de pie, bien entendu, en train de discourir avec un de ses comparses. Un jour, nous aplatirons tous ces gueux sous nos souliers à boucles. Et le comparse qui répond, à ce propos, en Angleterre, ils sont en train d'installer un grand réseau de chemins de fer. Ils mécanisent les filatures, développent la métallurgie, étendent leur empire colonial. Et le premier aristo qui dit, je ne vois pas le rapport. Eh bien, vous savez qui c'est qui trime pour faire tout ça? Le premier, c'est quand même pas le peuple. C'est... Oh, ils sont forts, ces Anglais. Notre société agricole et artisanale s'apprêtait à franchir le cap de la modernité pour devenir une puissance commerciale et industrielle. Le peuple, libre, débarrassé du joug de la monarchie, allait se transformer en un prolétariat aliéné par le capital, quand tout à coup, la machine industrielle s'enraya. On ne trouvait pas assez d'ouvriers pour faire tourner les usines. Pourquoi chez nous et pas chez les Anglais?
Que disent les vieux à la retraite? On ne bossera pas jusqu'à 100 ans. Que disent les vieux à la retraite? Même si les femmes vivent plus longtemps. On veut poser nos bagages, un peu de respect pour notre grand âge. On veut poser nos bagages pour préparer l'ultime voyage.
Elle est de retour à la grève.
Les classes ouvrières, on en a marre de ces salaires. Que disent les classes ouvrières? On ne bossera pas au bout de la terre. On n'en peut plus de ces patrons qui veulent toujours plus de pognon. On n'en peut plus de ces patrons, ils finiront en saucisson.
Elle est de retour à la grève.
Que disent les jeunes en colère? Nous le fardeau de la nation. Que disent les jeunes en colère? Nous ferons la révolution. On veut des emplois pour les jeunes, diplômés ou non qualifiés. On veut des emplois pour les jeunes, de banlieue ou des beaux quartiers.
Elle est de retour à la grève.
Les gens sans papier, on nous maltraite dans vos églises. Que disent les gens sans papier? Nous ne voulons plus qu'on nous méprise. On doit pouvoir vivre ensemble, élever nos gosses dans vos écoles. On doit pouvoir vivre ensemble, mais nous ne sommes pas nés sur ce sol.
Elle est de retour à la grève.
En 1789, l'abolition des droits féodaux avait permis à beaucoup de paysans de posséder leurs lopins de terre et à beaucoup d'artisans leur échoppe. Nous étions le seul pays d'Europe où les pouilleux se hissaient aux échelons intermédiaires de la société, dessinant peu à peu les contours de la classe moyenne. En 1848, les hommes obtinrent le droit de vote au suffrage universel. et les petits propriétaires devinrent le groupe d'électeurs le plus important du pays. Il faut croire qu'ils se trouvaient bien comme ils étaient, car ils bloquaient toutes les réformes qui auraient pu les envoyer à l'usine ou dans les mines. Il y avait aussi que les Français ne faisaient pas assez d'enfants. Était-ce à cause de Thomas Malthus qui prétendait qu'il valait mieux 2 enfants gras et bons en maths que 11 rachitiques à courir la gueuse? Ou bien à cause du code civil napoléonien qui avait imposé une division équitable de l'héritage? Si bien que les parents se disaient qu'avec une progéniture nombreuse, après leur mort, ce serait encore toute une histoire pour se partager le magot. Pays le plus peuplé d'Europe en 1789, la France se plaçait 4e en 1900. Les patrons au bord de la dépression se précipitèrent dans le bureau du ministère du Travail et se lancèrent dans un plaidoyer pour le redressement de la France, la croissance à 2 chiffres, la création de centaines de milliers d'emplois. Pour tout ça, ils ne voyaient qu'une solution. Faire massivement appel aux étrangers. Le ministère du Travail donna sa bénédiction. Il avait déjà prévenu les États voisins qu'on allait leur piquer du monde, et vu la misère dans laquelle ils étaient, ça allait en tenter plus d'un. Les premiers immigrés ne vinrent pas de bien loin. En 1850, la crise frappait déjà les mines et le textile en Belgique. Il nous a suffi de proposer aux Belges 50 centimes de plus par mois pour qu'ils affluent dans tout le nord de la France. À la fin du 19e, ils étaient 500 000, constituant à eux seuls la moitié de nos immigrés. On a eu de la chance avec les Belges. D'un côté, on a eu les Wallons, qui sont quasiment français, et de l'autre, les Flamandes, qui firent d'excellentes boniches. À la fin du 19e, le filon belge se tarissait, et on dut se rabattre sur les Italiens. On accueillit en France des flopées d'hommes jeunes, musclés, qui dansaient comme des dieux, et fumaient des cigarettes sans filtre, en défiant le soleil de leurs noires prunelles. Au départ, ils s'installèrent dans le sud-est, à la campagne comme bûcherons, bergers, journaliers, à la ville comme ouvriers dans les usines ou dans les ports. Avec le temps, ils remontèrent vers Lyon, Paris, puis ils en varirent, le Nord et la Lorraine. Quand on croisait un immigré italien ou espagnol, parce que maintenant il y avait aussi des Espagnols, on lui trouvait une hygiène douteuse, on se le représentait en train de battre ses enfants, et comme sa femme s'interposait, il la torgnolait aussi en la traitant de puta. Fallait faire gaffe, dans une minute, ce fou dangereux traverserait la rue pour nous planter son couteau dans le bide. On accélérait le pas en se disant qu'aux prochaines élections, on voterait pour le déroulède. Après la défaite de 1870, on donna aux Prussiens 5 milliards, plus l'Alsace-Lorraine, pour qu'ils nous fichent la paix. Par-dessus le marché, Bismarck exigea que ses troupes défilent sur les Champs-Élysées. Adolphe Thiers, président de la nouvelle Troisième République, lui demanda s'il voulait pas sa femme par-dessus le marché. Bismarck ne comprit pas la blague et dit « Ah, je veux bien, vous êtes gentil. » Pour ne pas le vexer, on lui donna Madame Thiers. Les Prussiens l'emmenèrent chez eux, on ne la revit jamais. Juste après, le peuple de Paris se souleva. On avait subi tant de privations lorsque les Prussiens faisaient le siège de la capitale qu'il n'était pas question de reconnaître un gouvernement fantoche qui offrait 5 milliards de nos impôts pour s'excuser d'avoir résisté. Patiemment, Thiers leur expliqua que le Second Empire s'était terminé, que dans la Troisième République, il y avait République et que République voulait dire « tout le monde décide ». Le peuple de Paris répondit qu'il n'avait besoin de personne pour se gouverner. Il s'autogérait très bien tout seul. Alors Thiers, sa République, il pouvait se la mettre où vous pensez. Et là, il y a des vignettes qui montrent que à ce moment-là, la faim a fait se précipiter les Parisiens et les communards dans le jardin zoologique, où on s'est taillé un morceau de, non pas de beefsteak, mais d'éléphant steak, etc., etc. Thiers leur dit qu'on allait lancer un grand chantier de construction de routes et de voies de chemin de fer pour désenclaver les campagnes, qu'on accorderait une liberté absolue à la presse, que les communes pourraient élire leur maire au suffrage universel, qu'on rendrait l'école laïque gratuite et obligatoire. Alors elle est pas belle la vie. Une balle fit voler son haut de forme. La foule cria « À bas la République, vive la commune !» Thiers, vexé à mort, donna l'ordre à la troupe de faire un carnage, et la semaine suivante, le gouvernement reprenait ses quartiers dans Paris. Et là, on voit une vignette où Thiers admire un plan avec le Sacré-Cœur, et sous le Sacré-Cœur, dans le sous-sol, ben on voit la fosse commune des communards, histoire de nous rappeler que le Sacré-Cœur, qui ressemble à un gros gâteau, une grosse meringue, et qui fut construit à la gloire de Dieu, bien entendu, a des fondements particulièrement sinistres. Il boira de ce vin-là, boira le sang des copains. Lors du conseil des ministres qui suivit, Thiers n'était pas dans son assiette. La Troisième République était fragile. Un retour à l'ordre ancien était toujours possible. On est en République, oui ou merde. On va pas laisser ces enfoirés de légitimistes réinstaller la monarchie, ni ces imbéciles d'orléanistes démarrer un troisième empire. Mais oui, bordel, maintenant qu'on tient le pouvoir, on ne le lâche plus. Dans ce cas, il faut que le peuple vote pour nous. La politique, ça ne les intéresse pas. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est bouffer, boire et baiser. On n'a qu'à faire comme vous avez dit. Les routes, la presse, les maires, les écoles, les bordels. Avant, nos petits gueux ne savaient pas qu'en l'an 800, les Missi Dominici, mandatés par Charlemagne, faisaient régner la loi partout le pays. Grâce à la carte accrochée dans la classe, ils remarquèrent que la France est un hexagone parfait, bien plus beau que l'Italie, qui ressemble à une vulgaire motte. Ils prirent conscience qu'on avait conquis l'Algérie en 1830, qu'on possédait un nombre incroyable de comptoirs en Afrique et en Asie, et qu'on n'allait certainement pas en rester là. L'école publique obligatoire donna au peuple la lecture. Si on était le pays des droits de l'homme, on n'en était pas moins le pays des grands auteurs. À l'école, on fut bien content d'apprendre Molière et La Fontaine. Chez soi, pour se détendre, on se jetait sur les feuilletons dans le journal, les mystères de Paris, les trois mousquetaires ou les aventures de Rocambole. Avec des vignettes assorties, je vous les décris pas, vous avez qu'à aller acheter la BD, hein, il me semble. L'engouement pour la lecture permit une formidable expansion de la presse écrite. De 1880 à 1910, le nombre des journaux vendus chaque jour passa de 1,5 million à 10 millions d'exemplaires, pour seulement 20 millions d'adultes. Plusieurs centaines de quotidiens paraissaient partout en France, et il y en avait pour tous les goûts. Les ouvriers, le cri du peuple, l'humanité, les patrons, le Figaro, la Croix, l'élite, le Temps, les gens cultivés, la revue des deux mondes, les clients de bordel, Mamselle Jambes en l'air. Tous ces titres ne représentaient que la moitié des tirages, l'autre moitié était réalisée par seulement 4 journaux qui s'imprimaient à plus d'un million d'exemplaires chacun. Le Petit Parisien, Le Matin, Le Journal et Le Petit Journal. C'étaient des entreprises florissantes qui employaient des centaines de personnes et dégageaient d'énormes profits. Peu à peu, elles supplantèrent les gazettes locales. Et les vignettes assorties sont assez craquantes. Et oui, eh bien, pourquoi est-ce qu'on se moque du journaliste qui vient présenter son œuvre? Parce que les clients du bar ont sous le coude le petit journal, donc journal parisien, qui raconte les malheurs de Madame de, qui a eu son chien écrasé, elle aussi. Seulement, c'est la naissance de la presse people, et c'est bien plus intéressant quand il s'agit du chien de Madame de que du chien de Madame Dupont. Et voilà. Ces grands journaux étaient à peu près d'accord sur les questions qui devaient être mises en avant et les sujets dont parlaient leurs journalistes devenaient des sujets de référence. Sujets repris par les journaux moins importants, mais plus prestigieux, débattus et amplifiés dans les cafés, sur les marchés, dans les cours de récréation et finalement sur les bancs de l'Assemblée nationale. C'est ainsi que la presse à grand tirage de la fin du XIXe siècle inventa l'actualité. Le fait divers s'imposa peu à peu comme le nouvel Eldorado, le fait divers hypnotisé. On s'identifiait aux personnages comme dans les romans feuilletons, mais en mieux, car tout ça était vrai. Fort de son succès, le fait divers contamina les journaux politiques, et il divisa le monde en deux catégories, les agresseurs et les victimes. La presse, pour les pauvres, présentait les ouvriers unis exploités par ces salauds de bourgeois. La presse, pour les riches, les bons patrons raquettés par l'insatiable prolétariat. Et tout le monde était content. En démocratie, celui dont les idées rencontrent l'adhésion du plus grand nombre emporte le morceau. Si vous souhaitez faire abolir la peine de mort et que vous le confiez seulement à vos enfants en leur faisant promettre de garder le secret, et il y a peu de chances pour que cette idée fasse son chemin. Si vous disposez d'un instrument de communication pour faire savoir à tous vos concitoyens comme ça serait formidable d'abolir la peine de mort, vous avez beaucoup plus de chances pour que ça passe. Sauf si juste avant le vote, un type viole et étrangle une petite fille. Ce qui serait vraiment pas de bol. L'expansion de la presse coïncida avec le développement du mouvement syndical et de la lutte ouvrière, pour lesquels les manias de la presse n'avaient qu'une sympathie limitée. Je pose ouvertement la question. Comment discréditer les grèves sans se mettre à dos notre lectorat, composé des couches populaires? Se lamente un PDG de la presse au conseil d'administration. Et un des assistants a une idée. Le service militaire. Le PDG. Le service militaire, Dupin? Oui, parmi les grévistes, il y a un groupe d'Italiens dont au moins un individu devrait être actuellement au service militaire. Comme vous le savez, les étrangers ne sont pas mobilisables. Alors moi je dis, ce gars-là prend la place d'un ouvrier français, dégagé de ses obligations militaires. Le PDG ravi.
C'est bon ça? Et si ça se trouve, c'est un espion ou un anarchiste.
Et notre assistant, ça me donne une super idée de dessin. Alors le dessin, il est assez rigolo, en effet. On voit un superbe Italien avec un poitrail appétissant qui dit au revoir à son camarade français qui part au service militaire, chargé de tout le barda, armes et bagages, etc. Et il lui dit quoi à son copain français?
Tu peux partir tranquille, y garder ton travail et ta femme.
La gendarmerie fut alors chargée de répertorier les étrangers susceptibles d'effectuer leur service militaire, tandis que les préfets constituaient un fichier avec toutes les informations qu'il était possible de récolter. hôtel où descendaient les immigrés, combien de sucre dans leur café, la couleur de leurs chaussettes. Devant l'ampleur de la tâche, la police se découragea. Alors on fit passer une loi qui obligeait les étrangers à se déclarer en mairie. Comme ça, ils faisaient eux-mêmes le boulot de la police. Ça paraît tout bête aujourd'hui. Mais sur le coup, on n'en revenait pas d'avoir fait une pareille trouvaille. À cette époque, Alphonse Bertillon inventa la criminologie moderne. Il mit au point une méthode scientifique de reconnaissance des individus fondée sur la photographie et les signes particuliers. La méthode avait été créée pour recenser les suspects de toute nature. Elle fut naturellement appliquée aux immigrés. Alors le ministère de l'Intérieur se mit à enfler. Dans les années suivantes, furent créés un service de contrôle des étrangers, un service des réfugiés, un service des expulsions, un service de sucette pour les enfants dont les parents ont été passés à tabac. En 1889 fut institué le premier code de la nationalité qui permit une grande vague de naturalisation pour faire le service militaire. Si on était étranger et qu'on se mariait à une Française, on pouvait changer de nationalité. Si on était étrangère et qu'on épousait un Français, on devenait Française d'office et on la bouclait. Si on était né en France de parents étrangers nés en France, on prenait automatiquement la nationalité française. Si on était né en France de parents étrangers nés à l'étranger, on prenait la nationalité française à sa majorité avec possibilité de la refuser. Dans ce dernier cas, les employés de mairie faisaient goûter aux réfractaires tous les bons petits plats de nos terroirs pour le convaincre. Le code de la nationalité traça dans les esprits une frontière invisible entre national et étranger. En quelque sorte, il inventa la nationalité française. Maintenant que tout le monde savait lire, il fallait ménager la clientèle et les thèmes favoris de la presse se déplacèrent peu à peu. Le rôle de l'agresseur, autrefois tenu par l'ouvrier ingrat poussant son patron au suicide, fut dévolu naturellement à l'étranger. Tantôt espion, tantôt anarchiste, toujours usurpant le travail des vrais Français. Là-dessus parut la France juive, un pavé de 1200 pages qui alternait nécrochus, gros banquiers et une compilation de faits divers en guise de démonstration. Son auteur, Édouard Drumont, journaliste qui avait gravi les échelons un à un, faisait la fierté de la profession. Pour une fois qu'un confrère sortait un bouquin, la presse mit le paquet, et la France juive connut 140 rééditions en 2 ans. Alors qu'auparavant on n'avait jamais trop fait gaffe aux juifs, soudain, la peur s'installa dans les chaumières. Finalement, la France juive, bon ou mauvais livre, ce n'était pas tellement le problème. D'ailleurs, personne ne l'avait vraiment lu. Ce qui comptait, c'était qu'on pouvait résumer son contenu en 3 mots. Le problème juif. Désigner les juifs comme le nouvel ennemi, c'était rassembler les catholiques, et les opposer au gouvernement laïque, que la volonté de séparer l'Église de l'État avait pris comme une envie de pisser. À la suite de quoi, il ne restait plus qu'à laisser faire l'actualité. Il était couru d'avance qu'on allait dégoter un quelconque capitaine de l'armée française qui aurait le malheur d'être juif et qu'on allait accuser d'être un espion à la solde des Prussiens. Voilà. Comment commença en 1895 l'affaire Dreyfus? Cette affaire sépara la pensée politique en 2 camps bien distincts, la gauche qui soutenait Dreyfus et la droite qui lui lançait des pierres. Il y avait aussi le centre qui lui lançait des prunes-molles, l'extrême gauche qui voulait faire péter sa prison et l'extrême droite qui voulait faire péter sa prison avec lui dedans. notre système politique actuel était né. Le discours antisémite ne faisait pas de distinction entre Français juifs, juifs étrangers et étrangers venus en France pour travailler. Plusieurs projets de loi proposèrent qu'on écarte les Français d'origine étrangère de la fonction publique et de l'armée. Ils ne furent pas votés, mais amplement débattus dans la presse. « Non, Youpin, les métèques dehors !» La bataille des idées était remportée, c'était l'essentiel. Forte de ce succès, la presse s'en prit aux indigènes de nos colonies. Eux, on pouvait dire tout le mal qu'on voulait. Ils n'étaient pas clients. D'ailleurs, ils étaient illettrés. Il s'inventa tout un folklore fait de négros sympathiques qui vendaient du chocolat, d'arabes fourbes égorgeurs d'enfants, de petits indochinois travailleurs mais stupides et de femmes faciles de toutes les couleurs qui dansaient jusqu'au bout de la nuit. Ce folklore s'invita dans les manuels scolaires et dans les discours politiques. Il eut le mérite de convaincre les Français qu'ils participaient à une grande œuvre civilisatrice. Les fils d'immigrés de la première génération, dont les parents étaient arrivés en France sous le Second Empire, avaient honte de leur père, qui ne réagissait pas à toutes ces âneries qu'on publiait dans la presse. Le vieux avait courbé l'échine toute sa vie. Il enlevait toujours sa casquette quand le contremaître passait pour l'inspection. Et qu'est-ce qu'il avait gagné le jour où sa jambe avait été broyée par un wagonnet rempli de charbon? La porte. La nouvelle génération décida de ne pas se laisser faire et vint prêter main-forte aux organisations ouvrières. La classe dirigeante et les milieux d'affaires savaient bien qu'un mouvement ouvrier structuré était une menace pour ses intérêts. On s'aperçut que la diffusion des idées racistes avait ce formidable avantage de faire oublier aux travailleurs l'injustice de leurs conditions et les luttes qui vont avec. Le racisme unissait ouvriers et patrons en un seul peuple de France qui défendait ses intérêts contre les étrangers.
Allez salauds, chante à la gloire de la victoire du père Fouettard. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire de la mère facho. On l'a vu venir même d'un seul œil, l'enfant maudit du père Cyclope, en s'écriant vivement dimanche, tournant les pages des livres, le petit livre blanc. Y'a trop d'arabes dans mon pays, trop de musulmans, trop de pratiquants, pas assez de blancs, de bons chrétiens pour ramasser nos petites poubelles. On aime le vin, le saucisson, les vraies valeurs de la nation que l'on marine dans la potion pour faire pâlir l'islam, pour faire pâlir l'islam. Les bonnes recettes du pot-au-feu que l'on cuisine dans notre histoire. Même la Saint-Barth et la Shoah n'ont pas rendu ces gens moins sombres. Qu'on les opprime, qu'on les enferme dans leur ghetto comme dans leur camp. Voilà ce que pensent nos dirigeants jusqu'à ce que mort s'en suive, jusqu'à ce que mort s'en suive. Que l'on libère nos langues de pute qui donnent la voix aux députés, à ces ministres qui chantent en chœur les pires chansons du front, les pires chansons du front. À ces penseurs par intérim qui crèvent l'écran à coups de haine et qui nous vendent à coups de peur tout le bonheur d'un père fasciste. Je veux vous dire comme je vous aime, je vous châtie de tout mon cœur, en espérant qu'un jour prochain vous vivrez comme des chiens, vous vivrez comme des chiens. J'ai trop d'amour pour ce pays, pour le lâcher entre vos mains, tout entaché d'une âme impure, je grave ces mots dans vos sillons. Allez chanter vos vieilles rengaines, vous esclaver de vos slogans, vous endormir sur vos prières pour que demain soit pire, pour que demain soit pire. Mais où sont-ils nos bien-pensants pour bâillonner la femme sans tête? Vos grands penseurs de l'Élysée ne sont pas dignes de France. Je dirai tout ce que j'ai sur le cœur et peu m'importe ce que ça me coûtera. La liberté en ligne de mire sera mon seul chemin de croix. Je vous salue, bande de salauds, vous et vos pères, les faux dévots, les fous de guerre et les fachos, et vous les bons à rien, et vous les bons à rien. Allez salauds, chante à la gloire de la victoire du père Fouettard. Je vous salue, bande de salauds, vous et vos pères, les faux dévots, les fous de guerre et les fachos, et vous les bons à rien.
On pouvait bien oublier ces petites dissensions entre exploiteurs et exploités. Sinon,
On finirait sans boulot, à la rue, à sniffer de la colle. Et qu'est-ce qui toucherait les allocations familiales quand on les aurait inventées?
Chapitre 3. Les immigrés qui servent à quelque chose. 1914. Maintenant qu'on avait fait la révolution industrielle et que l'analphabétisme avait chuté dans les coins les plus reculés de France, maintenant qu'on avait conquis la moitié de l'Afrique en même pas 20 ans, tout en se rabibochant avec les Anglais qui avaient conquis l'autre moitié, maintenant qu'on était devenu une puissance économique et industrielle et l'un des peuples les plus raffinés du globe, nous pouvions enfin réaliser notre rêve. Détruire les Boches à tout jamais. Pour ce faire, on avait besoin de toutes les bonnes volontés. Déjà, pour aller mourir sur le front. Dans l'armée, pas de chichi. Les Juifs pouvaient s'enrôler. Les Italiens et les Espagnols pouvaient s'enrôler. Bien sûr qu'on n'avait rien contre eux. C'était qui le pays des droits de l'homme si c'était pas la France ? 43 000 étrangers prirent d'assaut nos bureaux de recrutement. Au début, on crut qu'on n'aurait pas besoin d'y aller nous-mêmes. Les Boches se montrèrent coriaces, et on dut envoyer au front nos braves paysans et nos valeureux ouvriers. Ils se firent dégommer comme des lapins. On ne pensait pas que ça irait aussi vite. On devait sans cesse renouveler les contingents, et à force, il n'y eut plus personne pour faire tourner les usines, ni cultiver les champs. On dut passer des accords de recrutement avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal. 440 000 étrangers passèrent nos frontières. Nous fîmes à chacun un contrat de travail qui nous permettait de les traduire en justice si l'envie leur prenait de déserter leur poste pour rentrer chez eux. Depuis le temps que les indigènes de nos colonies culpabilisaient parce qu'ils n'avaient pas pu nous rendre au centuple ce que nous leur avions apporté, c'était maintenant ou jamais. 500 000 tirailleurs vinrent jouer du tam-tam sur le front, tandis que 225 000 pistonnés se la coulèrent douce dans nos usines d'armement. Logés gratuitement dans des baraquements militaires, ils se plaignaient de n'avoir pas le droit d'aller voir les falaises d'Étretat. Jamais, en si peu de temps, nous n'accueillîmes autant de gens qui nous voulaient du bien. On était tellement contents qu'on se fit un devoir de retenir les noms, prénoms, dates de naissance, pays d'origine, photos et empreintes digitales de tout le monde. Et c'est ainsi qu'en 1916 naquit la plus belle invention de l'administration moderne, la carte d'identité. Nous fîmes l'effort d'en fournir une à chaque étranger, gratuite et permanente. Ils étaient très émus en la recevant. C'était comme si on leur donnait un petit bout de papier avec écrit dessus « Merci, maintenant on a une dette envers toi ». Après l'armistice, tout ce petit monde s'affala dans des transats et demanda des cocktails avec une paille. Ils ne voulaient pas rentrer chez eux. Nous fûmes d'accord pour garder les étrangers normaux. Ils étaient à peu près assimilables. Mais il n'en fut pas question pour les indigènes. S'ils se mariaient avec nos femmes, elles devraient se convertir à l'islam. Nous leur expliquâmes gentiment qu'il y avait un fossé culturel infranchissable, alors nous les forçâmes à rentrer chez eux, avec notre pied au derrière. La guerre avait laissé le pays sur les rotules. 10% des hommes étaient morts au combat, et le mouvement ouvrier avait profité de l'euphorie de la victoire pour arracher la journée de 8 heures. Comment allait-on faire pour tout reconstruire et redevenir la France éternelle? On avait sous la main le formidable outil de recrutement public de main-d'œuvre immigrée que nous avions créé pour les besoins de la guerre. Le patronat fonda sa propre Société Générale d'Immigration, SGI, pour faire venir qui il voulait, quand bon lui semblait, sans paperasse ni bureaucratie. Au lendemain de la guerre, à part quelques vieux États centralisés, comme le nôtre, les pays étaient mal unifiés. Il y avait des principautés de machin chouette, des fédérations de ceci, cela. Il était urgent de passer à un stade d'organisation supérieure. Woodrow Wilson, le président des États-Unis, organisa à New York une grande fête de la victoire. À la fin, un peu ivre, « Mes chers amis, je n'ai qu'une chose à dire. Vive le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » Il y eut un grand blanc. Bien sûr, ce droit ne s'applique pas aux colonies. On dansa jusqu'à plus d'heures et on créa la Société des Nations, SDN. Il fut décidé que les peuples qui avaient une langue, une religion et une histoire commune pourraient constituer une vraie nation, avec sa capitale et son petit drapeau. Le monde bavait d'admiration devant notre concept d'État-nation. Notre système républicain, notre ministère de l'Intérieur, notre carte d'identité pour les étrangers, chaque pays repompa son système, plus ou moins démocratique, sur celui de la France, sans nous refiler un seul centime de royalties. Ceux qui n'avaient pas réussi à se faire reconnaître comme des États nationaux par la SDN, on s'empressa de les désigner comme minorités. Mais les minorités étaient des poseuses de bombes en puissance qui réclameraient tôt ou tard leur indépendance et ruineraient les belles unités nationales. Pour leur faire passer le goût de la sécession, les nouveaux États persécutèrent les minorités. La SDN ferma les yeux, et des files ininterrompues de malheureux réfugiés s'amassèrent aux frontières. Des camps installés en Europe de l'Est accueillaient des Russes blancs, des Ukrainiens et des Hongrois, chassés par les bolcheviks. D'autres, en Grèce et au Liban, offraient asile aux Arméniens et aux Grecs, poursuivis par les Turcs. On envoyait sans tarder nos recruteurs pour vérifier leurs dents et ramener les plus costauds. Des milliers d'opposants au régime fasciste italien et espagnol rentraient en France clandestinement. On envoyait aussi la police pour vérifier leurs dents et les remettre au ministère du Travail qui les orientait là où on avait le plus besoin d'eux. Partagée pendant plus de 100 ans entre la Russie et la Prusse, la Pologne retrouva sa souveraineté après la guerre. Elle avait enfin le droit de disposer d'elle-même, mais elle ne savait pas quoi en faire. Elle était dans la misère, sans infrastructure, sans industrie, sans bougie, un trou dans le jardin pour faire ses besoins. Les Polonais furent très excités à l'idée d'abandonner leur autonomie toute neuve pour venir s'installer chez nous. En 10 ans, la Société Générale d'Immigration fit venir 500 000 travailleurs polonais dans les champs de canne à sucre du nord de la France. Et alors les champs de canne à sucre, vous les devinez, on en sort très 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 bronzé et silicosé. Les mines. Les Polonais venaient s'installer en cortège bien rangé, le père, la mère, les enfants, derrière eux les grands-parents, les cousins. Le patronat français fut surpris de recevoir tout ce petit monde. Pour ne pas paraître impoli, il leur fit construire des villages entiers près des mines, les corons, qui se révélèrent bien pratiques à l'usage. Les loyers étaient directement retenus sur la paye des mineurs, pas besoin d'âne ni de charrette pour embaucher le matin, et quand un coup de grisou faisait 30 victimes, on pouvait prévenir les familles avec un simple porte-voix. Tous les immigrés n'étaient pas logés à la même enseigne. La plupart du temps, ils se serraient les uns contre les autres dans les meules de foin aux abords des grandes villes. Nous les autorisâmes à s'installer près des décharges municipales, qui, avec un peu de travail et d'imagination, recelaient des trésors pour construire des logements décents à peu de frais. Mais ils ne parvinrent qu'à fabriquer des bidonvilles. Dans les années 20, la France était le premier pays d'immigration au monde par rapport à sa population. une nouvelle loi lui permit la naturalisation de dizaines de milliers d'étrangers chaque année. Notre taux de natalité et nos effectifs sous les drapeaux firent un bond en avant. Parfois, nos chères têtes brunes, venues d'ailleurs, avaient encore un petit peu honte de leur pays d'origine. Et 300 mètres avant la grille de l'école, ils lâchaient la main de leurs parents en leur demandant de retourner à la maison. Mais globalement, la France était devenue le meilleur jardin d'acclimatation du monde. Mais on n'arrivait pas à leur en vouloir.
Alors, mesdames et messieurs, qu'attendons-nous pour s'indigner? J'ai fait le rêve d'une autre France, qui serait le berceau de la tolérance. Comme un flambeau qu'on brandirait, une terre nouvelle nourrie de chance. J'ai fait le rêve d'une autre France.